Chiana, en voyant approcher Tuek, cessa les étranges flexions des doigts qu'elle était en train d'accomplir sous les directives de Kipuna. Manifestant tous les signes apparents d'une patience bien informée, elle demeura silencieuse, le regard rivé sur le grand prêtre, forçant ses compagnons à se retourner pour regarder avec elle. Chiana ne voyait pas en Tuek un personnage bien redoutable. Elle aimait bien ce vieillard, malgré ses questions parfois pataudes. Quant aux réponses qu'il donnait, tout à fait par hasard, elle avait découvert la question qui le troublait le plus. Pour quelle raison ? Certains prêtres présents avaient interprété tout haut cette question comme « Pour quelle raison croyez-vous à cela ?» Chiana avait immédiatement profité de l'occasion et par la suite, chaque fois qu'elle avait entrepris de tirer les vers du nez à Styros ou à quelqu'un d'autre, elle avait utilisé la formule consacrée « Pour quelle raison croyez-vous à cela ?» Tuek s'arrêta à deux pas de l'enfant et s'inclina. « Bonjour, Chiana. » Il tortillait nerveusement le cou contre le col de sa robe. Le soleil tapait dur sur ses épaules et il se demandait pourquoi elle aimait tant rester ici à l'extérieur. Chiana continuait de dévisager placidement Tuek. Elle savait que cela le mettait mal à l'aise. Il se racla la gorge. Chaque fois que Chiana le regardait ainsi, il se demandait « Est-ce Dieu qui m'observe à travers ses yeux ?» Ce fut Kanya qui parla. Chiana a posé aujourd'hui des questions sur les truitesses. De sa voix la plus onctueuse, Tuek murmura
« La Sainte Légion de Dieu ?»«
Rien que des femmes ?» demanda Chiana.
Elle parlait comme si elle ne pouvait y croire. Pour la base de la société rakienne, le mot truitesse appartenait à l'histoire ancienne et désignait des gens perdus au fin fond de l'époque de la Grande Famine.
« Les truitesses, se dit Tuek.
Elle veut me mettre à l'épreuve. » Les tenantes modernes du nom ne possédaient sur Rakis qu'une petite délégation de commerce et d'espionnage composée à la fois de femmes et d'hommes. Leurs origines n'avaient plus grand rapport avec les activités auxquelles elles se livraient présentement et qui consistaient à servir principalement de bras séculiers à X.
Il y a toujours eu des hommes pour servir les truitesses en qualité de conseiller, dit Tuek, sans quitter Chiana des yeux pour voir comment elle réagirait.
« Il y a donc toujours eu des Duncan Idaho ?» intervint Kanya.
« Oui, oui, bien sûr, les Duncan. »
Il s'efforçait de ne pas laisser voir sa contrariété. Cette femme l'interrompait tout le temps. Tuek n'aimait guère qu'on lui rappelle cet aspect-là de la présence historique de Dieu sur Rakis. L'inévitable Gola et la situation qu'il occupait dans la Sainte Légion laissaient soupçonner à tout le moins la complaisance du Bene Tleilax. Il fallait toutefois reconnaître que les truitesses, agissant naturellement sous l'impulsion de Dieu, avaient su protéger les Duncan de tous les dangers qui les menaçaient. Les Duncan étaient sacrés, cela ne faisait aucun doute. Mais ils appartenaient à une catégorie spéciale. Dieu lui-même n'avait-il pas écrit qu'il avait tué certains de ces Golas de ses propres mains, sans doute pour les transférer plus directement au ciel?
« Kipuna m'a parlé du Bene Gesserit, » déclara Chiana.
Comme l'esprit de cet enfant virevoltait sans cesse. Tuek s'éclaircit la voix. Il reconnaissait l'ambiguïté de sa propre attitude devant les révérendes mères. Certes, le plus grand respect était dû aux favorites de Dieu, telle la vénérée Chenoé. Et le premier de la lignée des grands prêtres avait su démontrer logiquement que la sainte Huwinori, la fiancée de Dieu, était en secret une révérende mère. En hommage à ces circonstances spéciales, le clergé se sentait des responsabilités irritantes envers le Bene Gesserit. Elles se traduisaient essentiellement par les prix ridiculement bas que les prêtres lui demandaient pour leur mélange en comparaison des tarifs pratiqués par les Tleilaxu. De sa voix la plus ingénue, Chiana murmura
« Parlez-moi du Bene Gesserit, Edley. »
Tuek regarda vivement les adultes qui entouraient Chiana, essayant de surprendre un sourire sur leur visage. Il ne savait quelle attitude prendre quand elle s'adressait ainsi à lui par son prénom. Dans un sens, c'était humiliant. Dans un autre, elle l'honorait en le traitant de manière si intime.
« Dieu me met cruellement à l'épreuve, » se disait-il.
« Est-ce que les révérendes mères sont gentilles ?» demanda Chiana.
Tuek soupira. Les textes étaient unanimes à dire que Dieu faisait des réserves sur la communauté des sœurs. Les paroles sacrées avaient été soigneusement analysées et soumises à l'interprétation finale d'un grand prêtre. Dieu ne laissait pas les sœurs menacer son sentier d'or. Ce point, au moins, était clair. « Beaucoup d'entre elles sont gentilles, » répondit-il.
« Où se trouve la plus proche révérende mère ?»«
À l'ambassade du Bene Gesserit, ici même, à Kin. »«
Vous la connaissez ?»«
Il y a plusieurs révérendes mères dans la citadelle. »«
Qu'est-ce que c'est qu'une citadelle ?»«
C'est ainsi qu'elles appellent leur demeure ici. » »«
Il doit y en avoir une qui les commande. Vous la connaissez ?»«
Je connaissais l'ancienne, Tamalan. » Mais elle vient d'être remplacée. La nouvelle commandante s'appelle Audrade.
Drôle de nom.
Tuek le pensait aussi, mais il se contenta de dire « Un de mes historiens affirme que c'est une déformation du nom Atréide. »
Shyanna médita cela quelques instants. Atréide. C'était la famille qui était à l'origine de l'existence de Shaitan. Avant les Atréides, il n'y avait que les Fremen et Shai-Hulud. L'histoire orale que le peuple préservait malgré toutes les interdictions des prêtres, chantait les filiations de tous les grands noms de Rakis. Shyanna avait souvent entendu ces noms repris en chœur dans son village. Muad'Dib a engendré le tyran. Le tyran a engendré Shaitan. Elle ne se sentait pas d'humeur à discuter pour rien avec Tuek. Elle murmura simplement
« Amenez-moi cette révérende mère Audrade. »
Kipuna dissimula un sourire malicieux derrière sa main.
Tuek, médusé, recula d'un pas. Comment satisfaire une telle demande? Même le grand prêtre de Rakis ne donnait pas d'ordre à une révérende mère.
Et si les sœurs lui opposaient un refus, pouvait-il leur faire en échange un présent de mélange? Cela risquait d'être interprété comme une faiblesse.
Les sœurs marchanderaient. Il n'y avait pas plus âpre en affaire que ces révérendes mères au regard glacé.
Et la nouvelle, Audrade, devait être une des pires, à en juger d'après les apparences.
Toutes ces pensées avaient traversé l'esprit de Tuek en un éclair. Mais ce fut Kanya qui lui vint en aide, en suggérant « Peut-être que Kipuna pourrait transmettre l'invitation de Shyanna ?»
Tuek jeta un vif regard à la jeune prêtresse acolyte. Beaucoup soupçonnaient Kipuna, et Kanya la première visiblement, de les espionner pour le compte du Bene Gesserit. Certes, sur Rakis, tout le monde espionnait pour quelqu'un. Tuek arbora son plus beau sourire pour se tourner vers Kipuna.
Vous connaissez des révérendes mères?
Certaines, oui, seigneur grand prêtre,
répondit l'acolyte.
Au moins, elle n'oublie pas de marquer le respect qui convient.
Parfait, dit-il à haute voix. Voulez-vous être assez aimable pour faire en sorte que la gracieuse invitation de Shyanna se répercute jusqu'au sommet de l'ambassade des sœurs?
Je ferai de mon mieux, seigneur grand prêtre,
répondit humblement Kipuna.
Je n'en doute pas.
L'acolyte, fièrement, commença à se tourner vers Shyanna. Elle triomphait intérieurement. La demande de l'enfant avait été ridiculement facile à induire à l'aide des techniques enseignées par le Bene Gesserit. Kipuna souriait et ouvrit la bouche pour parler. Soudain, un mouvement derrière Shyanna, à hauteur du parapet situé à une quarantaine de mètres de là, attira son attention. Quelque chose avait jeté un éclat au soleil. Quelque chose de très petit et... Avec un cri étranglé, Kipuna souleva l'enfant, la projeta vers Tuek médusé et cria « Courez !» tout en s'élançant elle-même à la rencontre de l'objet brillant, un chercheur minuscule qui traînait derrière lui une grande longueur de chigavrille. Dans sa jeunesse, Tuek avait joué à la batte. Instinctivement, il rattrapa Shyanna, hésita un instant, puis se rendit compte du danger. Entraînant la fille qui protestait et gigotait dans ses bras, il franchit en trombe la porte de la cage d'escalier. Il entendit la porte se refermer en claquant derrière lui et Kanya qui le suivait de son pas rapide.
« Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il ? »
hurlait Shyanna en tambourinant sur sa poitrine.
« Chut !»
fit Tuek en s'arrêtant au premier palier, d'où un puits de descente et un système de va-et-vient à suspenseur permettaient de gagner les étages inférieurs de l'édifice. Kanya s'était arrêtée à côté de Tuek et sa respiration essoufflée résonnait bruyamment dans l'étroite cage d'escalier.
« Cela a tué Kipuna et deux de vos gardes »
halta-t-elle.
« Littéralement sectionné, je l'ai vu de mes propres yeux. Que Dieu ait pitié de nous !»
Les pensées de Tuek étaient un maelstrom. Le puits de descente et le système à suspenseur formaient des souricières que quelqu'un avait pu aisément saboter.
L'attaque sur la terrasse n'était peut-être qu'un élément d'un complot bien plus vaste.
« Déposez-moi !»
insista Shyanna.
« Que se passe-t-il donc ?»
Tuek la mit par terre, mais garda l'une de ses mains serrées dans la sienne. Il se pencha pour lui dire «
Ma chère Shyanna,
Il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal. »
La bouche de l'enfant forma un haut silencieux, puis
« Ils ont fait du mal à Kipuna ?»
Tuek leva la tête vers la porte de la terrasse. Était-ce un ornithoptère qu'on entendait là-haut ?
Styros.
Il était si facile pour des conspirateurs d'emmener dans le désert trois personnes vulnérables.
« J'entends un orni, » dit Kania, qui avait retrouvé son souffle. « Nous ne devrions pas nous attarder ici. »«
Nous allons descendre par l'escalier, » fit Tuek.
« Mais les... »«
Obéissez !»
Sans lâcher la main de Shiana, le grand prêtre descendit jusqu'à l'étage suivant. En plus du puits de descente et du va-et-vient, il y avait à ce palier une porte qui s'ouvrait sur un vaste corridor semi-circulaire. Les appartements de Shiana, précédemment ceux de Tuek, n'étaient qu'à quelques pas de cette entrée. De nouveau, Tuek hésita.
« Il se passe des choses là-haut, » chuchota Kania.
Tuek baissa les yeux vers l'enfant apeurée et silencieuse qui se collait contre lui. Elle avait la main moite de transpiration. On entendait effectivement tout un remue-ménage là-haut sur la terrasse. Des cris, des bousculades, des sifflements de brûleurs. La porte par laquelle ils étaient descendus, à présent hors de vue, au-dessus de leur tête, vola en éclats. Cela acheva de décider Tuek. Il ouvrit brusquement la porte du corridor et se précipita dans les bras d'une formation étroitement serrée en triangle de femmes entièrement vêtues de noir. Avec une sensation de défaite au creux du ventre, Tuek reconnut celle qui occupait la pointe de la formation.
Audrad.
Quelqu'un lui arracha Shiana et la fit passer dans le groupe compact de femmes en noir, où elle fut littéralement engloutie. Avant que Tuek ou Kania aient pu protester, des mains leur baïonnèrent la bouche. D'autres mains les plaquèrent contre le mur du corridor. Plusieurs silhouettes en robe noire sortirent silencieusement par la porte qui donnait sur la cage d'escalier.
« L'enfant est sauve, et c'est la seule chose qui compte pour le moment, »
murmura Audrad en regardant Tuek dans les yeux.
« Ne faites aucun bruit. »
ajouta-t-elle, tandis que la main qui le baïonnait était retirée. Puis elle utilisa la voix.
« Racontez-moi ce qui s'est passé là-haut. »
Tuek obéit sans hésitation. « Un chercheur avec une longue traîne de chigavrille, » dit-il.
« Il est arrivé par-dessus le parapet. Kipuna l'a vu la première et... »«
Où est Kipuna ?»«
Morte. Kania a tout vu. »
Tuek décrivit la conduite héroïque de Kipuna devant le danger.
Kipuna morte, se dit Audrad en dissimulant le désarroi plein de fureur que lui causait la nouvelle. Quelle perte.
Sa mort forçait l'admiration.
Mais quelle perte.
Le Bene Gesserit avait besoin de ce genre de courage et de dévotion, mais il avait également besoin du capital génétique représenté par Kipuna.
Et il est perdu, détruit par ces imbéciles.
Sur un geste d'Audrad, la main qui baïonnait Kania fut retirée.
« Dites-moi ce que vous avez vu, » ordonna Audrad.
L'engin chercheur a lancé sa chigavrille autour du cou de Kipuna et... » Kania frissonna sans pouvoir continuer sa phrase. Le bruit sourd d'une explosion retentit au-dessus de leur tête, puis ce fut le silence. Audrad fit un geste bref. Des femmes en noir se glissèrent silencieusement de chaque côté le long de la paroi incurvée du corridor, puis disparurent à leur vue. Seul Audrad et deux autres, de jeunes femmes au regard froid et déterminé, demeurèrent aux côtés de Tuek et de Kania. Shiana avait disparu.
« Les Ixiens ne sont pas étrangers à cette affaire, » déclara Audrad.
Tuek était de cet avis.
« Toute cette chigavrille. »«
Où avez-vous conduit l'enfant ? » demanda-t-il.
« Nous nous occupons de sa protection. Attendez. »
Elle pencha la tête pour écouter. Une femme en noir apparut en courant au détour de la courbe du corridor. Elle chuchota quelque chose à l'oreille d'Audrad. Celle-ci eut un sourire bref.
« Tout est fini, » annonça-t-elle. « Nous pouvons aller retrouver Shiana. »
L'enfant était assise dans un fauteuil moelleux au milieu de la pièce principale de ses appartements. Des femmes en noir formaient un demi-cercle protecteur derrière elle. Tuek vit qu'elle semblait avoir récupéré du choc de l'attaque et de l'arrivée des sœurs. Ses yeux brillaient d'excitation et de questions muettes. Son attention était braquée sur quelque chose qui se trouvait hors du champ de vision de Tuek, sur sa droite. Il s'avança et tourna la tête, sursautant devant le spectacle qui se révéla à lui. Le corps nu d'un homme était adossé au mur dans une étrange position disloquée. Sa tête était tordue de telle manière que son menton reposait sur son épaule gauche. Ses yeux béants reflétaient le vide de la mort. Styros. Les lambeaux de son vêtement, qui lui avaient été visiblement arrachés violemment, gisaient en un tas informe au pied du cadavre. Tuek se tourna vers Odrad.
« Il faisait partie du complot, » expliqua-t-elle.
« Il y avait des danseurs-visages parmi les Ixiens. » Tuek essaya de déglutir malgré sa gorge sèche. Kania s'avança lentement vers le corps. Tuek ne voyait pas son visage, mais il se souvenait qu'il y avait eu quelque chose entre Styros et elle dans leur jeunesse. Le grand prêtre se déplaça instinctivement pour se trouver entre elle et l'enfant assise. Kania s'immobilisa devant le cadavre et le toucha du pied. Elle se tourna, l'air satisfait, vers Tuek. « Il fallait que je m'assure qu'il était bien mort, » dit-elle. Odrad jeta un coup d'œil à l'une de ses compagnes.
« Débarrassez-nous de ce corps, » dit-elle.
Elle se tourna vers Shianna. C'était la première occasion qu'elle avait d'étudier l'enfant de près depuis son arrivée au temple, à la tête de la force d'attaque. Derrière elle, Tuek bredouilla.
« Révérende mère, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer ce qu'il... »«
Plus tard. »
interrompit Odrad sans se retourner. L'expression de Shianna s'était animée en entendant les mots prononcés par Tuek.
« Je me doutais que vous étiez une révérende mère, » fit-elle.
Odrad se contenta de hocher la tête. Quelle enfant fascinante. Elle éprouvait devant elle les mêmes sensations que lorsqu'elle se tenait devant l'antique tableau du bureau de Taratsa. Une partie du feu que renfermait le chef-d'œuvre l'inspira subitement. Le message du peintre fou Van Gogh. Le chaos transformé en ordre merveilleux. Cela ne faisait-il pas partie des prolongements du Bene Gesserit ?
Cet enfant est ma toile, se disait Odrad.
Elle sentait ses doigts frémir au toucher de l'antique pinceau. Ses narines palpitaient à l'odeur des huiles et des pigments.
« Laissez-moi seule avec Shianna, » ordonna-t-elle. « Que tout le monde sorte !»
Tuek ouvrit la bouche pour protester, mais y renonça quand l'une des femmes en noir qui accompagnait Odrad la grippa par le bras. Odrad lui jeta un regard furieux.
« Le Bene Gesserit a déjà eu l'occasion de vous rendre service par le passé, » dit-elle. « Cette fois-ci, il vous a sauvé la vie. »
La femme qui le maintenait le tira par le bras.
« Répondez à ces questions, » dit Odrad. « Mais pas ici. »
Kania fit un pas vers Shianna.
« Cet enfant est sous ma... « Sortez !»
glapit Odrad, faisant appel à tous les pouvoirs de la voix. Le visage de Kania devint blême.
« Vous avez failli la perdre face à une bande de conspirateurs minables, » poursuivit la révérende mère en la fustigeant du regard. « Nous déciderons plus tard s'il y a lieu que vous continuiez à vous occuper d'elle. »
Les larmes ruisselèrent sur le visage de Kania, mais les reproches d'Odrad ne pouvaient être démentis. Kania se détourna et courut rejoindre les autres. Odrad reporta son attention sur l'enfant qu'il observait.
« Il y a si longtemps que nous vous attendions, » dit-elle. « Nous ne laisserons pas à ces imbéciles une autre occasion de vous perdre. »